et bienvenue sur le podcast Texas Mama Blog Expat. Dans 3, 2, 1, on y va! Les questions dites sérieuses se posent parfois avant le départ de l'expatrié, parfois lors de son expatriation et d'autres fois aussi à son retour. Le notaire fait souvent surface et on va se le dire, plus c'est tôt dans le processus, plus c'est simple. Mon chemin a croisé celui de Joannie dernièrement et j'adore la suivre sur les réseaux sociaux depuis. C'est une notaire aux couleurs de notre époque qui a des valeurs parfois inspirantes, parfois touchantes et elle livre un contenu vraiment super intéressant. Je vous invite à la suivre, entre autres sur Instagram. Comme elle a des connaissances qui peuvent aider notre belle communauté de Québécoises expats, je lui ai lancé l'invitation d'enregistrer avec moi un épisode sur le sujet. C'est ainsi que nous nous sommes lancés dans une discussion relativement à des sujets chauds, comme le testament, le mandat d'inaptitude, les procurations, le mariage à l'étranger, etc. Tous ces sujets qui ne semblent pas toujours super sexy, mais qui sont ô combien importants. Bonne écoute! Bonjour Joannie, comment ça va?
Bonjour Dominique, ça va très bien toi-même?
Ça va super bien, merci. Je suis tellement contente de te recevoir sur le podcast aujourd'hui.
Ça me fait tellement plaisir!
On a eu un moment pour discuter avant l'enregistrement. Tu es une super belle découverte pour moi, j'allais dire cette année. L'année commence tout juste en 2019. T'es pleine de ressources, t'es d'abord notaire, aussi conférencière, membre de plusieurs CA, maman, musicienne, grande voyageuse. Puis je m'arrête aussi sur cet adjectif-là de voyageuse parce que je pense que c'est de grand intérêt dans le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Donc, pleine de ressources, pleine de connaissances, super agréable. J'ai adoré te suivre sur différentes plateformes. Puis, maintenant, c'est sur le podcast Exerce Mama Blog Expat que tu trouves. Alors, on va en profiter pour te connaître davantage ici.
Merveilleux!
Alors, la première chose que je voulais voir avec toi, c'est qu'effectivement, tu as une âme de voyageuse. Tu es sortie du Québec assez souvent. Parle-nous un petit peu de cet aspect-là rapidement.
Oui, en fait, mon premier grand voyage, c'était un voyage humanitaire même. Je suis allée au Pérou quand j'avais 15 ans, 16 ans, au secondaire. Là. Déjà là, ça m'a ouvert sur vraiment des nouvelles réalités, une nouvelle façon de voir la vie. J'ai eu la chance aussi d'habiter en Allemagne pendant un an. Donc, avant de faire mon bac en droit, en fait, je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. Je pensais devenir professeure. Puis, j'ai fait, en fait, une année pour être professeure de français, si tu veux, dans une école primaire et secondaire en Allemagne. Puis, c'était un rêve vraiment que j'avais d'habiter à l'étranger, d'étudier à l'étranger. Et je voyage assez souvent. J'ai encore des amis en Allemagne, en Europe. Puis pour moi, le voyage, c'est vraiment un moment de découverte, mais aussi de découverte sur les autres et sur moi, je pense que je pourrais dire. Donc je trouve ça super enrichissant.
Et donc là, ça t'a permis de découvrir ce que c'était que l'expatriation déjà assez jeune. Quand tu étais en Allemagne, est-ce que c'est ça, tu étudiais là-bas? Tu étais dans une famille? Tu étais en appartement? Comment c'était?
Oui, en fait, j'habitais dans une famille qui ne parlait pas français du tout. Puis on ne parlait pas anglais non plus parce que c'est trop facile de parler anglais. Ouais. C'était vraiment une immersion. Puis moi, je voulais vraiment... j'avais pris des cours d'allemand... au cégep, mais je voulais vraiment faire une immersion. Puis là-bas, c'était comme un programme Québec-Allemagne d'être comme Il appelait ça French Prussian Assistantin, c'est assistante de langue étrangère, finalement. Et c'était... donc, c'était du travail, mais en même temps, je travaillais comme 3 jours semaine. J'accompagnais tous les groupes d'Allemands qui allaient en France, parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre l'Allemagne puis la France. Fait que j'allais en France, je faisais du théâtre. Du travail, mais du travail vraiment amusant.
Puis en même temps, ben, je dirais que c'est tous les meilleurs moyens pour apprendre à vitesse grand V, autant la culture que la langue. Ouais. Que l'autonomie, finalement, de la vie d'une jeune adulte.
Ouais.
Puis là, ce que je comprends, c'est que tu es rentrée au Québec après cette expérience-là, tu as poursuivi tes études, tu as étudié en droit et finalement, tu es devenue notaire.
Ouais. À un certain moment, il faut choisir hein, entre avocate ou notaire. Donc toi, t'es avocate, donc tu as choisi l'autre voie. Moi, j'ai choisi le notariat. J'ai suivi mon intuition. Je pensais que ce serait peut-être plus facile d'être à mon compte en étant notaire, puis d'ouvrir mon petit bureau, puis de faire mes petites choses, puis d'être dans la relation d'aide, d'être dans l'écoute. C'est ce que je fais finalement côté notaire que j'aime beaucoup.
Puis là, on se suit sur les réseaux sociaux et de fil en aiguille, de conversation avec toi, j'apprends que tu as aussi une clientèle qui tourne parce que c'est pas ta clientèle n'est pas nécessairement basée là-dessus, mais là, j'apprends que tu as une clientèle aussi qui tourne autour de l'expatriation, des expats. Tu connais des gens qui ont été expatriés ou qui le sont, etc. Donc, tu as... c'est un niveau de connaissance à ce niveau-là que j'ignorais au moment où je t'ai connue au départ. Donc, c'est ça. Je comprends que c'est un sujet qu'on peut aborder avec toi. Alors là, j'étais toute excitée de pouvoir te recevoir sur le podcast pour te poser des questions à ce niveau-là. Alors, on va entrer dans le vif du sujet par rapport à l'entrevue. Je me demandais d'abord, puis peut-être d'entrée de jeu pour établir les bases, peut-être. C'est quoi les questions qui te reviennent le plus souvent de la part de tes clients qui sont expatriés ou qui vont l'être ou qui l'ont été selon ton champ de compétences en notariat?
Mm-hmm. Oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à penser, c'est sûr. Mais du côté notariat, c'est sûr que les sujets qui reviennent souvent, c'est les questions de testament, de mariage aussi, évidemment. Ouais. Posséder, par exemple, des biens, une maison au Québec et à l'étranger, et qu'est-ce qui arrive avec les héritages, et qu'est-ce qui arrive si nos parents nous lèguent des biens, est-ce que j'ai besoin d'une procuration pour signer mes choses quand je suis à l'étranger. Donc ça, c'est des questions au niveau notaire qui reviennent assez souvent, ouais.
Donc là, tu es en train d'énumérer toutes les questions qu'on se pose, effectivement. Alors, j'aimerais ça qu'on entre un peu plus là, dans ces sujets-là et qu'on aborde peut-être ces questions-là de façon indépendante pour... avoir un peu d'informations, puis en savoir un peu plus. Tu sais, c'est sûr que moi aussi, en tant qu'avocate, là, je sais que chaque cas est un cas d'espèce, puis qu'on ne peut pas généraliser le cas de chacun en particulier, mais on peut quand même donner des principaux conseils. Alors, j'aimerais ça savoir, là, toi, par rapport aux expatriés, c'est quoi les principaux conseils que tu donnerais, mettons, à quelqu'un qui pense s'expatrier, mais qui ne l'est pas encore?
Mm-hmm. Ben en fait, je pense que comme tu l'as si bien dit, tu sais, chaque cas est unique, vraiment. Là, il n'y a pas un cas pareil, mais c'est sûr qu'il y a des grandes lignes. Puis je pense que le but peut-être de notre entretien, c'est peut-être de soulever un peu les drapeaux rouges, tu sais, à quoi penser pour l'avenir finalement, parce que c'est toujours plus facile de prévoir que d'être devant un fait accompli ou une problématique, surtout si on est à l'étranger. Fait que je pense qu'une chose importante, d'abord, c'est de dire que chaque cas est unique, que chaque personne doit consulter, évidemment, son conseiller juridique, son fiscaliste aussi. Je pense que tu vas recevoir aussi quelqu'un au niveau des impôts. Ça, c'est comme, tu sais, il y a le côté notaire, mais il y a le côté fiscal qui est vraiment, vraiment important aussi. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que chaque province, chaque territoire a vraiment sa propre réglementation. Donc, c'est sûr que de parler de cas spécifiques, c'est plus difficile parce qu'il y a tellement de choses qui changent, mais je pense que on peut y aller vraiment dans les grandes lignes. Donc, je crois que premièrement, ce qui est important, à mon sens, c'est la préparation. Aujourd'hui, avec Internet, avec le web, avec un groupe merveilleux que tu animes, il y a des ressources. On peut poser des questions, on peut se préparer. Et je pense que c'est vraiment la clé d'une réussite de s'informer par soi-même, de s'informer auprès de professionnels, de s'informer auprès de personnes qui ont peut-être déjà vécu ça aussi, puis de voir quelle est sa situation personnelle. Est-ce qu'on est en couple ou pas? Est-ce qu'on est marié ou pas? Est-ce qu'on a des enfants ou pas? Ça va dépendre de chaque situation. Donc, je pense que ouais, une bonne préparation, c'est essentiel pour la suite des choses.
T'sais, est-ce qu'on peut dire que c'est même essentiel de rencontrer un notaire ou son notaire, si on en avait déjà un auparavant, là? Mais il y a de la paperasse qu'on devrait normalement s'assurer de remplir et de mettre à jour avant de partir.
Ben oui, parce que, tu sais, on est en 2020, puis honnêtement, chaque fois que tu vas aller en quelque part, les gens demandent des papiers, là, des papiers. Je pense que c'est comme, c'est une évidence que si tu n'as pas de documents, c'est, tu sais, être sans papier, hein, c'est un peu, c'est ça, tu sais, tout ce qui est vraiment papier, c'est d'être en ordre, d'être en règle selon sa situation. Je pense que c'est super important, surtout si on est dans une situation où on s'en va dans un pays étranger où on n'a pas la même langue. Si jamais on a des documents à faire transmettre, puis il va falloir les faire traduire, ben faut que les documents soient faits au départ pour pouvoir les traduire, tu sais, versus marcher avec des situations pas claires du tout, ça va entraîner plus tard plus de complications puis de frais, à mon sens, là. Donc, des fois, d'investir déjà à la base dans des documents bien faits, ça peut éviter ce genre de problématiques-là par la suite aussi.
Donc, des documents bien faits puis traduits dans la langue du pays où on va se trouver également. Est-ce que, tu sais, ça serait quoi les documents principaux? Là, je pense à un testament, là, on dirait que c'est le premier document qui me vient en tête. Est-ce qu'il y en a d'autres auxquels tu penses qui sont comme, tu sais, nécessaires là, à mettre à jour avant de partir?
Bien, je te dirais, ouais, bien, si on peut parler de testament. Bien, c'est sûr que je pense que n'importe qui, à un moment donné, qui est adulte, puis qui commence à avoir un peu de responsabilité, puis un peu de biens, un compte de banque, bon, des choses, je pense qu'il faut faire un testament. On est en 2020, là, je pense que c'est important. Puis, tu sais, il y a plusieurs façons là, de faire un testament. Tu peux en faire un à la main, ce que je conseille pas du tout, parce que ça pourra pas vraiment être reconnu. Ça ne pourra pas être reconnu là, à l'étranger, à moins de passer par un jugement de la cour ou tout ça, qui occasionne beaucoup de frais puis beaucoup d'incertitudes et de délais. C'est sûr que là, tu vas dire, bon, après, je suis pour sa paroisse, là, notaire, mais je pense qu'un testament notarié, là, ça reste que c'est quand même, c'est un document officiel, juridique. Le notaire est dûment enregistré à la Chambre des notaires. Il y a des... T'sais, à travers les États, on reconnaît les professionnels de d'autres juridictions. Donc, c'est sûr et certain que c'est la base. Je pense que c'est essentiel d'avoir un testament. Puis après ça, ben, le testament peut être fait au Québec en français, peut être fait en anglais aussi. Et c'est sûr que ça facilite énormément les choses. Puis... au niveau du testament, si on reste sur ce sujet-là, en fait, il va y avoir plusieurs cas de figure. Il y a des gens qui vont être expatriés peut-être pour, je ne sais pas, une période de 3 ans, peut-être pour un emploi, quelque chose comme ça. Puis il y en a d'autres, ça va être à plus long terme. Donc, là aussi, ça va être de voir la stratégie au niveau des documents, qui sera peut-être pas la même, je te dirais. Fait aussi de parler avec le conseiller juridique, combien de temps on pense passer à l'étranger? Est-ce que c'est pour un laps de temps à court terme, à moyen terme, à long terme? Puis il y aura des documents qui vont être faits en conséquence aussi selon la situation. Et dans certains cas, il va être conseillé que les expatriés fassent aussi un testament à leur lieu d'expatriation, à leur pays où ils sont. Si jamais ils changent, par exemple, s'ils sont devenus résidents domiciliés de l'autre pays et qui ont des biens, un compte de banque, peut-être une maison aussi, mais ça va être intéressant aussi de voir avec un conseiller juridique de la place où ils sont, de faire un document dans la langue où ils sont, selon les lois où ils sont également. Donc, il y a ça aussi à considérer. Puis parfois, les gens ont deux testaments. Ont un testament en français au Québec. J'en ai souvent des gens, le classique au Québec, c'est la personne qui a un condo en Floride. Fait que des fois, ils ont un testament en français au Québec pour leur bien au Québec. Puis ils ont un petit will and estate en Floride, sous les lois de la Floride en anglais, pour leur condo et compte de banque ou dans le contrat de leur condo. Fait que c'est juste d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut simplifier les choses aussi, parce que quand les choses sont faites en prévention, on peut s'arranger pour que on puisse aussi simplifier le processus une fois qu'une personne, par exemple, va décéder. C'est toujours mieux que tout soit déjà fait plutôt que de que ce soit la panique, puis qu'il n'y a rien de fait, puis que ce soit compliqué. Fait que je pense qu'il y a un exercice à faire vraiment au départ là, de la situation globale, puis de voir c'est quoi la meilleure façon de faire. Mais c'est sûr que de faire des papiers, ça évite énormément de délais, de temps, de stress et d'argent aussi.
Est-ce que le testament fait, rédigé, enregistré au Québec est valide n'importe où dans le monde sans être passé par un notaire ailleurs, simplement qu'en le traduisant?
Ah, ça, c'est une bonne question. C'est ma question. En fait, oui, le testament est valide pour les biens au Québec et pour les biens à l'extérieur aussi. Donc, il y en a des gens qui sont qui font qu'un seul testament. Par contre, il va falloir faire reconnaître le testament à l'étranger, le faire traduire, puis que là-bas, qu'on fasse affaire avec un juriste de là-bas. Donc, ça se fait. Puis dans le testament aussi, quand on le sait que la personne est dans une situation d'expatriation, on peut mettre une note par rapport à ça aussi. Quelle loi va régir quel bien dans quel pays? Il y a des notaires qui le font. Tu sais, c'est quand même relativement du droit nouveau parce qu'on recule, il y a 100 ans, là, il n'y avait pas ça. Là. Personne, ouais, les gens restaient chez ça. Eux. Puis, fait que c'est quand même quelque chose de droit émergent, que les gens bougent autant et tout ça. Mais je pense qu'il y a moyen d'être à l'avant-garde, puis d'être créatif et de répondre vraiment aux besoins de la personne. Parce qu'on peut, par testament, désigner une loi applicable à sa succession, mais il faut faire attention au moment du décès, quel était son domicile. En fait, c'est là où il faut voir un peu, OK, est-ce que tu t'en vas là pour du court terme, du moyen terme, du long terme? Et il faut faire attention aussi parce que dans certains pays, ben, les lois peuvent être relativement semblables. Puis dans certains pays, il peut y avoir aussi des considérations autres, notamment concernant les enfants. Il y a certains pays où on ne peut pas déshériter des enfants. D'autres pays, au niveau des droits matrimoniaux, au niveau du mariage, au niveau du contrat de mariage, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte, en fait. Donc, c'est là où on se dit, c'est une situation vraiment du cas par cas. C'est là où c'est intéressant de voir la situation de la personne, quelle est-elle, puis de voir c'est quoi les meilleurs documents qu'on peut faire pour elle.
Puis, je voulais apporter une clarification aussi à ce niveau-là. J'ai réalisé, quand on était allé chez le notaire, justement, Martin et moi, pour faire notre testament à Montréal, j'ai réalisé qu'on pouvait, chose que j'avais pas, tu sais, j'y avais juste pas pensé avant, on pouvait quand même mettre des généralités dans un testament. Tu sais, donc, les personnes qui pourraient avoir tendance à penser que ça va coûter cher parce que ma vie change souvent, mais c'est pas nécessairement le cas. Puis, je donne un exemple. Dans le testament, Martin et moi, à ce moment-là, on n'avait pas d'enfants, tu sais. Mm. Mais on a parlé de nos enfants à venir, tu sais. Donc, ouais. Je veux dire, même aujourd'hui, je sais que ce qu'on a mis là-dedans, tu sais, après un, après deux, après trois, après quatre enfants, ça a toujours la même validité, là, tu sais, ça n'a pas changé.
Oui. Mais oui, tu sais. Comme notaire, on s'arrange toujours pour voir, OK, c'est quoi le présent de la personne, c'est quoi un peu le... Ben, justement, parce qu'il y a des enfants qui s'en viennent, tout ça, puis on peut, j'appelle ça faire de la fiction juridique, là, tu sais. Moi-même, quand j'ai fait mon testament, j'avais pas ma fille, mais j'ai fait, bon, j'ai fait mettre tous mes enfants au premier degré, vivants et à venir. Donc, ce qui fait et qui crée le lien de filiation, c'est l'acte de naissance. Donc, c'est juste important d'avoir les actes de naissance. Puis rendu un certain moment, quand on a fini notre famille, puis qu'on n'aura plus d'enfants et tout ça, puis nos enfants sont adultes et tout ça, ben là, on peut peut-être, tu sais, faire une révision de testament, puis là, inscrire le nom de nos enfants, puis tout ça. Mais pour l'instant, il n'y a aucun problème des enfants à venir. Puis on peut faire des documents évolutifs aussi, c'est-à-dire qu'on peut parler de les biens, par exemple, immeubles que je posséderai au moment de mon décès seront dévolus, seront légués à mon conjoint. Mais immeuble, ça inclut toute maison, condo, chalet, terrain, immeuble à revenus que je posséderai au moment du décès. Donc, on n'est pas obligé non plus de changer notre testament à chaque fois qu'on déménage. Tu sais, les gens seraient souvent dans mon bureau là, dans ce cas-là.
Ouais, fait que,
on peut faire des, comme tu dis, des catégories générales de biens, si on peut, pour essayer de faire des documents évolutifs. Ben oui, puis on le fait le plus possible, ça c'est sûr.
Puis, si on prend le cas de la personne, tu sais, qui a un testament à Montréal, par exemple, et ben, au Québec, et qui déménage, je dis n'importe quel pays, là, c'est pas ça le point, là, mais mettons en France. Puis, 10 ans plus tard, elle habite toujours en France, elle fait un nouveau testament. Est-ce qu'il annule automatiquement le premier s'il y a des contradictions? Est-ce que c'est la date qui va importer? C'est le lieu du décès? Qu'est-ce qui va être le plus important dans la considération des décisions que la personne avait prises?
Oui, c'est une super bonne question. En fait, c'est là où c'est super important de faire une analyse complète de la situation de la personne parce qu'on peut, par un testament, annuler tous les anciens testaments qui ont été faits dans le passé. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on pourrait faire le jeu de le testament qui est fait au Québec reste valide et de faire un testament, mais en complément pour un immeuble, par exemple, en France, selon les lois françaises, devant un notaire français, devant les considérations françaises, sans nécessairement annuler tout ce qui a été fait au Québec avant, tu comprends? Oui. Donc, c'est là où c'est super important. Puis ça m'arrive de parler avec avec des juristes, mes homologues en France, pour certaines considérations. Et on va travailler ensemble pour que les documents soient cohérents. Donc, c'est là où il faut... Chaque clause est très importante. On veut que l'effet final soit bénéfique pour le client, puis non pas l'inverse. Mais ça, c'est rendu là. C'est là où c'est super important de regarder, c'est ça, quelle est la situation. Puis dans ce cas-ci, c'est sûr que si une personne bouge beaucoup, sa vie change beaucoup et tout ça, c'est sûr que je vais conseiller que constamment, quand il y a quelque chose qui change dans la vie, qu'on révise les documents, juste pour s'assurer que tout soit correct. Puis normalement, on demande aux gens de réviser leurs documents à chaque 5 ans. Juste de le relire au moins, puis de revoir que tout est correct. Si jamais il y a des choses, on peut toujours faire des ajustements, tu sais.
Que tout fasse du sens, puis que, tu sais, selon les changements de la vie, des fois, on réalise pas que, les enjeux peuvent être devenus différents. Est-ce que vous vous parlez entre notaires à l'international? Est-ce que la validité du document est internationale? Mettons là que tu as fait ton testament au Québec, que mm-hmm. tu n'as pas fait traduire, tu n'as plus rien fait. Puis là, tu es allé vivre en Chine ou en Australie ou en Afrique du Sud, puis tu décèdes. Est-ce que dans n'importe quel pays, ce testament-là va être reconnu? Après traduction, etc.
Ouais, ben écoute, je connais pas tous les pays et tout ça, puis comment ça fonctionne, mais c'est sûr que les pays de comment je pourrais dire, tu sais, mettons G20, ou je sais pas, tu sais, les pays un peu plus comme qui ont des pays civilistes, qui ont du droit civil, la common law et tout ça. Tu sais, il y a des ententes qui sont établies, nous, notamment au Québec, avec la France et tout ça. Donc, tu sais, je dirais qu'il n'y a pas d'automatisme. C'est super important de vérifier, je pense, dans le pays où on est, quel va être l'impact de ce document-là. Mais c'est sûr qu'on réussit à régler des successions. Oui, de cette façon-là, le document peut être valide pour tous les biens à l'étranger. Mais par contre, il peut y arriver des délais administratifs, peut-être des conflits de loi aussi, selon comment que le testament a été rédigé. Je pense pas qu'il faut y aller les yeux fermés, en se disant « Ah! Tout est correct, n'importe quoi, n'importe comment. » Non, mais il faut voir que quand même, un document, un testament qui est fait au Québec devant notaire, c'est comme la meilleure chose qu'on peut faire, là, tu sais. Puis après ça, ben de voir dans le pays où on est. Faut voir aussi, tu sais, si dans le pays où on est juste locataire, tu sais, puis on n'est pas propriétaire, puis qu'on n'a pas de bien, puis tout ce qu'on a, c'est un compte de banque, ça peut être assez facilitant, OK? Ce qui vient des fois un petit peu plus... où il y a une petite... Tu sais, des particularités, c'est plus si on a un bien immeuble, une maison, un condo, tout ça, ou si peut-être on a des actions dans une compagnie étrangère. Puis là, il va falloir faire attention aussi. Est-ce qu'on a une convention en actionnaire? Fait qu'il va falloir voir ça. Et aussi, il faut parler du mariage à travers tout ça. Parce que si tu me parlais, c'est quoi les questions qui sont posées? Bien évidemment, le mariage, c'en est une aussi. Parce que le mariage peut avoir des considérations aussi au niveau de la vie commune, mais aussi au niveau du décès sur à qui vont les biens au moment du décès, selon notre état matrimonial et selon si on a fait aussi un contrat de mariage ou pas. Et le contrat de mariage a été fait sous quel régime légal, dans quel pays, en quelle langue? Alors ça, c'est une autre chose. Je pense qu'il faut se questionner comme couple. Des belles discussions. À venir pour le mariage.
Et justement, par rapport au mariage, la première question qui me vient, c'est tu te maries à l'étranger, est-ce que ça a un avantage juridique de faire valoir ton mariage au Québec?
En fait, l'avantage...
À part peut-être prévenir ou décomplexifier...
C'est recommandé de fournir le document officiel qui est émis par le pays étranger au registre de l'état civil du Québec parce que au Québec, donc moi je célèbre quelques mariages par année, par-ci, par-là. Donc, comme célébrante, quand j'envoie l'acte de mariage, je pense qu'on appelle, les époux peuvent demander un certificat de mariage, fait qu'ils reçoivent un beau certificat de mariage bleu de l'état civil, directeur de l'état civil, qui ressemble un peu à un acte de naissance, c'est bon. Mais quand tu te maries à l'étranger, t'as comme rien, t'as comme pas, t'as ton papier d'étranger. Mais si t'as ton document étranger, puis il est en allemand ou en russe, je sais pas trop, puis que tu présentes ça au Québec, c'est comme pas reconnu d'office, tu dirais. Fait que c'est pour ça que c'est recommandé de le faire traduire officiellement. Mais ça, souvent les gens le font quand ils reviennent au Québec. Ouais. Ils sont liés au Québec. Puis, je vais te dire que c'est pas... Il y a des gens qui le font jamais, là. Bon, ils sont pas dans l'illégalité, mais ça va certainement faciliter beaucoup de démarches, notamment auprès du ministère, du gouvernement, des organismes québécois. Puis, à un moment donné, quand on va te demander ton certificat de mariage, ben t'es mieux d'avoir déjà tout fait ça que de le faire en panique, finalement. J'ai besoin de ça. Puis là, tu cherches rapidement un traducteur. Puis là, il faut payer des frais de prioritaire, tout ça. Versus, tu dis, je reviens au Québec. Je vais insérer ça au registre. Ça devient un acte semi-authentique. Mais on va pouvoir émettre un certificat de mariage. Fait que si on te demande ton certificat de mariage pour vendre une maison, pour acheter une maison lors d'un décès ou pour prouver que tu es marié, c'est franchement plus facilitant d'avoir déjà fait cette démarche-là, c'est sûr.
Puis, ça me fait penser à l'exemple suivant. Martin et moi, on s'est mariés aux États-Unis avant d'être expatriés, mais on a enregistré notre mariage au Québec. Quand on est aux États-Unis, maintenant qu'on habite aux États-Unis, on utilise la preuve de notre mariage d'ici, aux États-Unis. Quand on est au Québec, on utilise celle du Québec. Tu sais, finalement, je veux dire, on est mariés dans les deux pays. Puis, tu sais, ça simplifie dans les deux pays. Tu sais, on n'a pas besoin de passer par l'autre étape qui est de, tu sais, le petit détour, là, n'est pas nécessaire. Là, tu sais, ça devient juste clair selon l'endroit où on se trouve.
Oui, exactement.
Je veux donc revenir là sur, tu sais, tantôt on parlait du testament. On peut mettre, je pense, dans le même dossier le mandat en cas d'inaptitude, n'est-ce pas? C'est comme dans la catégorie des documents à planifier avant de partir. Le testament, le mandat en cas d'inaptitude, puis ensuite de ça, là on parle du mariage. Évidemment, si on s'est marié au Québec, le mariage est reconnu au Québec. Mais si on se marie à l'étranger, ça serait aussi de le faire valider au Québec là, pour que tout soit régularisé. Puis, c'est toujours, c'est souvent, en fait, dans l'optique de prévenir. C'est généralement qu'on a besoin de notre paperasse parce que ça va moins bien. Là. Donc, c'est de simplifier un problème qui ne va pas nécessairement arriver, mais qui pourrait arriver.
Oui. Et de plus en plus, je ne sais pas si tu... Moi, je ressens ça, en tout cas, il me semble qu'on doit montrer des preuves. Des preuves de ci, des preuves de ça, des preuves, tu sais. Fait que tu sais, je veux pas dans l'ère dans laquelle on vit, tu sais, avec tout ce qui est usurpation d'identité aussi, puis toutes ces choses-là, tu dis, d'avoir des documents en ordre, tu dis, c'est mes documents, tout est fait, tout est bien fait, puis il y a le sentiment que les choses sont bien faites et tout, puis le sentiment aussi que si on te demande ce document-là, tu vas l'avoir, tu sais, ça va être vraiment plus facilitant. Puis une autre chose qui est plate à parler, mais tu sais, si tu divorces, faut que tu donnes ton certificat de mariage. Là, c'est plate à dire, mais c'est comme ça. Fait que tu sais, là, en plus que tu es là-dedans, il faut que tu fasses cette démarche-là en plus. Fait que tu sais, pourquoi pas la faire dès que tu arrives. Ça peut être quelque chose à faire sur la to-do list pour les mariages à l'étranger.
Donc, un dossier en ordre avant de partir, ça serait, mettons, testament, mandat en cas d'inaptitude, avoir une copie de l'enregistrement de notre mariage. Ça serait comme des principaux documents. Ou il y en a-tu d'autres auxquels tu penses là, qui seront peut-être à penser, des décisions à prendre avant de partir?
Écoute, des fois... Ce que les gens font, c'est aussi une procuration.
OK.
Je t'explique. Une procuration, c'est de donner le pouvoir à quelqu'un de faire quelque chose pour nous si on n'est pas là. Mm-hmm. Des fois, je fais des procurations pour, par exemple, un couple. Ça peut arriver. Où il y en a un des deux qui voyage beaucoup. Puis l'autre reste au Québec, tout ça. Puis là, si jamais on a besoin de, je sais pas, on est en démarche de vendre la maison, mais que l'époux ou l'épouse va être à l'étranger, ben, au lieu de reprendre l'avion puis revenir signer chez le notaire, ben, on peut signer une procuration spécifique qui dit, ben, quand on vendra la maison, cette personne-là peut signer pour moi ou ça peut être un membre de famille, des choses comme ça. Puis je conseille que la procuration soit spécifique et qu'il y ait un laps de temps.
À durée limitée.
Ouais, tu sais, moi, je suis pas très chaude à l'idée de faire des procurations super générales à quelqu'un pour ad vitam aeternam, tu sais, des comme... c'est comme un chèque en blanc quasiment que tu donnes. Fait que moi, je pense que ça peut être...
Tu l'oublies en plus, peut-être. Tu sais, ça se peut que tu y penses.
Ouais. Ouais. Fait que je pense qu'il y a quelque chose de tu sais, ben, mettons pour les 6 mois ou pour 1 an. Puis, il y en a des gens qui font ça, tu sais, mettons qu'ils habitent en Australie, puis, tu sais, ils reviennent, je sais pas, au Québec un mois l'été, ben qu'ils retournent, qu'ils prennent rendez-vous chez le notaire, puis qu'ils refont une procuration, mettons, pour leur maman ou pour leur frère ou sœur, qui disent, bon, ben si jamais ils ont besoin de quelque chose ou signer quelque chose, ben je suis pas obligée de reprendre l'avion puis revenir, tu sais. Fait que ça peut être, c'est si on a des gens de confiance, puis qui peuvent faire des actes déterminés pour nous, ça peut être intéressant de penser à cette ouais, à ce document-là aussi. Ça évite des coûts de prendre l'avion, le stress, talala. Fait que ça peut être intéressant aussi.
Oui, excellent drapeau à lever. Après ça, tu sais, j'aimerais ça qu'on parle de l'expat qui est parti, qui habite à l'étranger, qui n'a pas nécessairement mis de l'ordre dans tout ça, ou peut-être que c'est désuet, sa situation a changé, le testament prévoit pas tout, parce qu'il y avait des choses qui étaient peut-être imprévisibles qui se sont passées, etc. Qu'est-ce que tu conseilles de faire à cette personne-là pour se régulariser là, dans sa situation puis que les choses soient en ordre?
Ben je lui suggère de pas rester seule avec toutes ces questions. Que souvent on est les pires hein, pour gérer nos propres comme choses et parce qu'on a nos questionnements, il y a des choses émotives aussi là-dedans, il y a de la, tu sais. Fait que je pense que d'aller s'asseoir avec son notaire, son comptable en lui disant bon, regarde, c'est quoi ma situation présentement? Voici A, B, C, D, E, il y a ça qui m'inquiète, voici le résultat auquel je veux arriver, quoi faire. Mais c'est ça notre rôle finalement, hein? C'est ça notre travail. Le rôle d'un notaire, d'un avocat, c'est d'être un conseiller juridique au départ, puis c'est de prendre une panoplie de paramètres, puis de faire un genre de soupe là, avec ça, là, puis de faire une recette qui se tient, puis de dire, bon, ben voici ce que tu as besoin, tac, tac, tac. Je pense que ça serait la solution, puis de peut-être quelqu'un qui habite à l'étranger, une expat qui habite à l'étranger, ben tu sais, j'imagine qu'elle revient une fois de temps en temps au Québec pour voir sa famille et tout ça, ben pourquoi pas voir son conseiller ou sa conseillère juridique pour s'asseoir, puis démêler tout ça. Je pense que ça peut être vraiment, vraiment bien. Comme on disait depuis le début, c'est tellement du cas par cas et tout que...
Est-ce que je pourrais dire que, tu sais, exactement ce que tu viens de dire, là, pour régulariser cette situation, d'aller s'asseoir avec son notaire, est-ce qu'on pourrait généraliser que si l'intention d'expatrier, c'est d'être expatrié pour une durée assez limitée, là, on ne mettra pas un temps, mais pour ne pas mettre un temps, je vais dire, mettons, 5 ans et moins. Puis, tu sais, alors à ce moment-là, de s'asseoir avec son notaire au Québec, de rentrer au Québec éventuellement, ou de voir. Et si la personne est probablement expatriée pour 5 ans et plus, voire je ne sais pas jusqu'à quand, peut-être même ma vie, à ce moment-là, ça serait de voir un notaire du lieu où la personne se trouve plutôt?
En fait, dans le deuxième cas, 5 ans et plus, je pense que ça serait bien de voir les deux. Parce que le notaire au Québec aussi, faut faire attention. Est-ce que tu as encore des biens au Québec? As-tu encore des REER au Québec? As-tu un CRI que tu as parce que tu as quitté un emploi puis c'est encore au Québec? Est-ce que tu es susceptible d'hériter de biens de tes parents au Québec? Tu sais, c'est toutes des choses qu'on ne concerneront peut-être pas l'étranger. Puis c'est des choses que qui arriveront peut-être pas là, là. Mais tu vois, moi, je dis aux gens, tu sais, si vous êtes susceptible d'hériter au Québec, ben tu sais, gardez un compte de banque.
Oui, ouais.
Regardez un lien. Une autre chose aussi qui est arrivée, là, je fais plus de vente de maison. Ça fait quelques années, mais quand j'en faisais, il est arrivé une situation à un moment donné où j'avais des Québécois qui... où je pense que c'était un couple. Il y en a un des deux qui était suisse, l'autre était Québécois. Puis, ils retournaient en Suisse pour habiter là-bas, pour travailler, les enfants retournaient à l'école et tout ça. Puis, eux avaient mis leur maison en vente au Québec. Tu sais, ça faisait peut-être 5 ans qu'ils étaient au Québec, qu'ils étaient résidents canadiens. Puis là, ils vendaient leur maison. Puis, ce qui arrive, là, puis t'en parleras sûrement avec le comptable, le fiscaliste que t'inviteras, mais ce qui arrive, c'est que comme notaire, t'as pas le choix de demander les pièces d'identité des gens qui viennent vendre une maison. Il faut qu'il y ait des pièces d'identité, un permis de conduire, puis une carte d'assurance maladie. T'sais, si t'as un passeport puis une carte d'un autre pays, tu dois lever un flag, la personne n'est peut-être pas résident canadien. Puis, quand tu vends une maison... au Canada, au Québec, puis que tu es non-résident canadien, il y a des impôts à payer. Puis c'est des gros, gros impôts. Fait que, des fois, les gens... Je sais qu'il y a des gens qui se font la réflexion du style, on est mieux de vendre la maison quand on est encore, tu sais, résident canadien, qu'on est ici, puis tout, quitte à vendre des fois un petit peu moins cher parce qu'on vend un peu plus vite, ou de vendre la maison puis de louer quelque chose pour l'espèce de période de transition. Fait que ça, je te dirais, c'est une autre affaire que pour pas se faire prendre, là, parce que dès qu'il y en a un qui est déjà déménagé dans l'autre pays pour commencer un emploi, puis tout ça, ça peut vraiment causer des troubles puis des problèmes. Fait que faut vraiment faire attention à ça, parce que ça peut coûter vraiment cher là, en impôts.
C'est ça. Puis encore une fois, c'est la situation, le cas d'espèce là, qui... c'est qu'il doit, dans le fond, valider, chaque personne doit valider avec un professionnel pour voir qu'est-ce que sa situation en particulier mérite comme attention. Ouais. Puis là, pour finir, au niveau des questions par rapport à ta profession comme telle, j'aimerais ça qu'on revienne, je saute du coq à l'âne, mais qu'on revienne sur l'histoire du mariage une seconde. T'sais, si tu avais, est-ce que tu aurais comme une mise en garde à donner aux gens par rapport à ça, ou tu sais, comme un truc à faire attention qui pourrait peut-être prévenir des problèmes futurs, tu sais, par rapport peut-être à la valeur du mariage, tu sais, selon le régime sous lequel ils sont, s'ils se marient dans un autre pays, qu'est-ce que ça peut changer au Québec? Il y a quelque chose autour de ça où c'est vraiment distinct selon les pays, tout ça, puis qu'on peut pas s'avancer?
Ben, écoute. Ce que je te dirais, c'est, je ne sais pas si toi, tu te souviens à l'université quand on a fait nos cours de droit matrimoniaux. Tu sais, mariage, là, c'était pas le cours sur la robe, la bague, le party, le champagne. Ça s'appelait droit pécuniaire familial.
Oui.
Fait que, tu sais, c'est vraiment, oui, c'est beau le mariage et tout ça, et la romance et le romantisme, et j'adore ça, il n'y a pas de problème. Mais le mariage, c'est aussi une union économique. Et je pense que, tu sais, puis il y a toutes sortes de situations, tout ça, mais je pense qu'avant de se marier, ça pourrait être intéressant de regarder plusieurs critères, notamment sur, ben, où est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on se marie au Québec? Est-ce qu'on se marie à l'étranger? Tu sais, quel est l'endroit le plus susceptible de rester le plus longtemps? Est-ce qu'on sait un peu où est-ce qu'on va finir nos jours? Ben, peut-être que c'est des questions qu'on peut pas vraiment se poser quand on a 30 ans et qu'on se marie, là, on s'entend. Mais si jamais on a au moins cette ouverture de discussion, ça peut être bien. Est-ce qu'on veut faire un contrat de mariage ou pas? Parce que si on ne fait pas de contrat de mariage, on est marié sous le régime, on appelle ça le régime légal, le régime de base de l'État où on se marie. Par exemple, au Québec, si on ne se marie pas, si on se marie en fait sans contrat de mariage, on est marié sous la société d'acquêt. OK? Fait que moi, des fois, je dis ça aux gens, tu sais, « Ah, OK, vous mariez, faites-vous un contrat. » Non, « Ah, vous êtes en société d'acquis. » Ah, c'est quoi ça? Ouais. Ben, on peut peut-être s'asseoir puis en parler, tu sais, versus est-ce qu'on fait un contrat de mariage, est-ce qu'on se marie en séparation de biens, est-ce qu'on fait un contrat de mariage ou pas? Puis si on se marie à l'étranger, ben c'est quoi le régime légal dans ce pays-là? Puis qu'est-ce que ça inclut au niveau des époux? Parce que ça a des impacts au niveau de si jamais on se divorce, si jamais il y en a un des deux qui décède et tout ça. Fait que je pense que ça peut être intéressant de faire la réflexion avant. Puis des fois, les gens, comment dire? Mettons, je vais te donner un exemple. J'ai le cousin de mon chum qui s'est marié dans une île dans le sud. Bon, en fait, il voulait se marier dans une île dans le sud et tout ça. Là, je disais, ben, pourquoi tu te marierais pas au Québec, là? Ben, ben simple, ben sec, là, devant notaire ou au palais de justice. Puis on fera une espèce de cérémonie vraiment incroyable là-bas, là, mais sans faire toutes les exigences de certificat de naissance, résultat de tests sanguins, lettre de consentement, preuve de non-mari. Tu sais, c'était vraiment beaucoup de choses. Puis finalement, c'était beaucoup plus simple de le faire comme ça. Parce que des fois, les gens disent « Ah, oh, mais la famille est là, et là, et là. » Oui, mais je sais pas. Des fois, je me questionne sur... C'est ça, sur est-ce que les gens ont vraiment pris le temps de voir toutes les options, puis quasiment de magasiner le lieu idéal, puis la juridiction idéale pour leur situation. Puis il n'y a peut-être pas d'idéal, il y a peut-être des compromis à faire, hein, ouais. Parce que finalement, c'est ça, hein, c'est... Puis il n'y a peut-être pas de bonne réponse absolue, mais au moins de prendre le temps d'y penser.
Je pense de prendre des décisions en toute connaissance de cause, tu sais. Puis, dans le fond, moi, à la fin de ça, là, je dirais même que, tu sais, c'est sûr que le droit, à la base, c'est pas super sexy, là. Tu sais, quand tu parles de mariage, puis il faut que tu prennes des décisions comme ça, monétaires ou, tu sais, stratégiques, etc. Fait que, tu sais, il y a personne qui trouve ça super excitant de passer par là, mais en même temps, tu sais, c'est votre avenir, là. C'est des décisions que vous prenez comme adulte responsable, puis mon point par rapport à ça, c'est que si, la situation dont tu parlais, là, si tu décides de te marier raide, frais, sec à Montréal, là, puis que par la suite, tu organises une grande cérémonie, un mariage, vous faites vos vœux, vous vous dites ce que vous avez à dire, là, il y a la petite fille qui porte la bague, etc. Mm. Tout ça peut arriver, puis même à la limite, les gens, ils n'ont pas nécessairement besoin de savoir où est-ce que votre mariage a eu lieu en premier. T'sais. Je veux dire, c'est pas comme... Je veux dire, ça peut rester entre les principaux concernés. Puis, que tout... Parce que dans le fond, ce qui intéresse les invités au mariage, puis tout ça, là, c'est l'acte du mariage, peut-être la robe blanche, de la bouquetière. Peut-être que tout ça, c'est le fantasme de tous les gens autour. Mais... le point de droit, il vous appartient. C'est important de prendre une décision intelligente.
Oui, je pense que c'est ça que tu as mis le doigt dessus, c'est de prendre une décision intelligente en toute connaissance de cause, consentement éclairé, avec tous les paramètres, puis de peut-être moduler même le mariage à notre image. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on veut gérer nos propres choses? Puis après ça, je veux dire... c'est ça. Les invités et tout ça, ça les concerne pas. Ça concerne vraiment le couple en premier lieu. Puis je pense qu'en 2020, on peut faire des mariages peut-être un peu plus modernes en se posant les questions. Puis après ça, faire des cérémonies à notre image aussi. Mais ouais, se questionner à la base.
J'adore ça. Donc, allez voir un professionnel qui va pouvoir répondre aux questions spécifiques à votre cas de la meilleure façon qui soit. Puis là, Joannie, j'arrive à la fin de l'entrevue. J'ai mes petites questions qui tuent comme je fais à la fin de chacun de mes podcasts. Tu n'es pas expatriée actuellement, mais mes questions sont tout à fait valables quand même. Donc, je te les pose comme je le fais avec chacun de mes invités. Avais-tu avant quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'on s'est dit? Là, je ne veux pas non plus... couper le sifflet comme ça trop rapidement.
Ben, écoute, je pense que la vie est tellement pleine de beauté, mais aussi de choses compliquées, que je pense que si on peut, à l'avance, tout penser à ça puis régler ça, ça nous amène la paix d'esprit. En fait, moi, c'est ça. Moi, je dis toujours que je ne suis pas une spécialiste du droit ou des testaments. Là. Je suis une spécialiste de la paix d'esprit. Puis la paix d'esprit, ben ça n'a pas de prix. Ça ne s'achète pas. Là. Fait que je pense que c'est un cadeau à se faire de que tout soit en ordre puis de ne pas penser à ça constamment là, parce que c'est quelque chose qui peut faire... qui peut tourner dans la tête. Fait que de régler ça, puis de mettre ça derrière nous pour profiter de la vie, profiter de tout ce que le pays où on est a à nous offrir.
J'adore ça. Donc, je passe à mes questions. Quelle est ta meilleure série de Netflix à vie si, évidemment, tu suis un peu des séries sur Netflix?
Oh my God! Ben, écoute, full fille, vraiment... J'ai commencé à écouter Outlander sur Netflix, en Écosse et tout ça. Fait que ça, ouais, c'était un bon coup de cœur de l'année dernière. Ça m'a permis de m'évader complètement, ouais.
De sortir de la routine. Je ne l'ai même pas écouté encore, donc je ne connais pas, mais j'en entends tellement parler. Il va falloir que je
m'y aille. Vraiment, c'est vraiment, ouais. C'est intéressant parce que moi, j'aime beaucoup les choses historiques aussi, là, donc ouais, c'est bon.
Est-ce que tu écoutes des podcasts? Et si oui, quel est le dernier que tu as écouté?
Oui! Ah, en fait, j'aime bien écouter les podcasts de Mary Forleo quand je suis en voiture. Ouais, j'aime bien tout ce qui est les podcasts de business. J'aime beaucoup ce qui se fait aux États-Unis. Je te dirais, ouais, Mary Forleo. Puis, au Québec, il y a Karine Ricard qui fait une nouvelle série magnétique où j'ai eu le bonheur aussi d'être invitée. Donc, ouais, ça serait une belle découverte.
Génial. Est-ce que tu es plus du type livre ou audiobook et qu'est-ce que tu lis présentement?
Ah, livre. J'adore les livres. J'adore aller à la bibliothèque ou dans une librairie. Présentement, je lis... un livre de Dr. Jon Kabat-Zinn, je ne sais pas trop si je dis bien, c'est « Au cœur de la tourmente, la pleine conscience ». Donc, je m'intéresse beaucoup à la pleine conscience et à l'hypnose et tout ça, puis je vais faire un cours pour devenir professeur de méditation pleine conscience. Fait que, ouais, je lis beaucoup là-dessus ces temps-ci.
C'est vrai, je l'ai vu en plus passer dans tes stories hier.
Ben oui, j'attendais mes meubles, fait que je lisais pendant ce temps-là.
Si je te donnais un billet d'avion pour aller vivre un an dans la destination de ton choix, ce serait laquelle?
Wow!
Pas beau cadeau, hein?
ouais, vraiment. Je crois que ça serait le Costa Rica. Je suis jamais allée. C'est un pays qui m'attire beaucoup, puis où... je me sentirais, je pense, bien et en sécurité. Et au chaud, j'adore aller au soleil. Donc, je pense que, ouais, ça serait ça.
La chaleur du Costa Rica. Moi non plus, je suis jamais allée, mais il semble que ce soit vraiment une belle destination. Donc, dernière question. Est-ce que tu penses que les expats naissent ainsi ou qu'ils le deviennent?
Oh! C'est une question qui, je trouve qu'il y a une résonance étrange avec moi parce que mon grand-père est né en Pologne et a émigré en Belgique et ensuite est venu au Québec. Et je sais pas, malheureusement, il est décédé quand j'étais jeune, j'ai pas posé la question. Pourquoi? Mais je pense que c'était toujours pour... un avenir meilleur, plus de possibilités, plus de paix, plus de liberté. Puis des fois, je me questionne à savoir si c'est vraiment ailleurs qu'on la trouve ou si c'est pas, je sais pas, peut-être en nous, gros point d'interrogation. Donc, je pense qu'il y a une certaine... quête. Il y a des gens qui sont plus dans la quête. Puis je pense qu'on est peut-être avec ça, cette espèce de volonté de d'aventure aussi. Moi, je sais que j'ai ça très, très fort en moi, l'aventure, la découverte. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est déjà en nous, puis qui nous pousse à vouloir aller vers un monde meilleur pour nous, pour notre famille, pour la liberté, pour la découverte. Puis il y a des gens qui sont très, très... Mon chum n'aime pas super gros voyager, par exemple. fait que je le vois que lui, c'est pas quelque chose en lui, vraiment, puis depuis même qu'il est tout petit. Fait que peut-être qu'il y a quelque chose en nous qui est là déjà au départ.
Donc, on est très probablement... Peut-être.
Peut-être, mais gros point d'interrogation. Ouais. Je sais pas si... mais je sais pas si comme ça fait partie de la réflexion. Ouais, c'est aussi de... Tu sais, à la recherche de... qu'est-ce qu'on recherche, tu sais, finalement? C'est une bonne question à se poser personnellement aussi.
Ben, écoute, merci beaucoup, Joannie. Merci de ta lumière, des éclaircissements, de nous avoir apporté des réponses, mais aussi de nous avoir apporté des questions à régler. j'adore ça. Je pense qu'on a des devoirs à faire. Chaque personne, en fait, qui écoute, on n'est probablement pas parfait, mais tu sais, de se rendre compte plutôt que qu'il faut se mettre à jour et de l'importance de tout ça. Un gros, gros merci pour ton message aujourd'hui. C'était super le fun de t'avoir sur le podcast.
Ah, mon Dieu, tellement réciproque. On refera ça avec grand plaisir. Puis un beau bonjour à toute ta communauté aussi.
Merci! C'était Joannie Lalonde de Pierre Archetout, mieux connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Joannie Notaire Engagée. J'espère que cet épisode aura répondu à certaines de vos questions, du moins qu'il vous a inspiré à aller chercher vos réponses dans une optique de prévenir plutôt que de guérir. J'ai adoré cette rencontre qui évoque clairement que de mettre de l'ordre dans nos papiers en mode prévention est toujours la meilleure façon d'éviter des situations non souhaitées. Restez avec nous pour découvrir la vie d'expat du Québec sous tous les angles et obtenir des outils pour réussir la vôtre. Pour poursuivre l'écoute du podcast et ne pas manquer d'épisodes, je vous invite à vous abonner à celui-ci. Si vous avez aimé le contenu, ce serait vraiment apprécié, afin de passer le mot, que vous laissiez une review en commentaire et que vous le partagiez sur vos réseaux sociaux en mentionnant ce qui vous a accroché le plus. N'oubliez pas de me taguer Texas Mama Blog ou Texas Mama Blog Expat. Merci!